Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Produit par Binge Audio.
Attention, cet épisode fait mention d'une tentative de suicide. Veillez à vous trouver dans de bonnes conditions avant de l'écouter.
Quelqu'un qui avance dans le désert et qui est perdu, qui sait même plus d'où il vient, parce qu'il a perdu ses repères, il sait pas où il va.
C'est très fréquent, une personne sur cinq fera une dépression au cours de sa vie.
Si je lis un peu, mais ça m'intéresse moins qu'avant. J'ai l'impression d'être beaucoup moins ouverte sur le monde.
Ce matin, tu t'es réveillée. Tes paupières étaient lourdes et ton cerveau embrumé. Ton corps ne voulait pas se lever. Tu aurais tellement préféré ne jamais te réveiller.
Les premiers symptômes sont arrivés quand j'étais assez jeune. Ben, j'ai toujours été une enfant sensible. J'ai grandi dans un monde particulier qui est le monde de l'expatriation. Et même au début, ma mère me disait qu'elle voyait que un peu les grands changements avaient un impact particulier sur moi. Où à chaque fois j'étais très déstabilisée, du coup il y avait des symptômes de mal-être qui apparaissaient. Du coup, par exemple, quand on a déménagé au Brésil quand j'avais 2 ans, à l'époque, du coup, j'avais passé à manger des compotes, etc. Et j'ai dégraissé, du coup, à juste boire du lait maternel. Dégression un peu assez signifiante. Et ma mère, du coup, avait déjà vu « Ah, il y a quelque chose ». Et puis après, quand j'avais 8 ans, on a déménagé aux États-Unis. Et là, par exemple, j'avais fait une grève de la parole pendant plusieurs mois. Et en fait, au fur et à mesure des déménagements, mais aussi que je grandissais, j'ai développé en fait des comportements qui en soi aujourd'hui du coup peuvent être des symptômes de mal-être, mais qu'en fait moi je voyais juste comme ma personnalité, et c'est arrivé de manière très progressive, et du coup petit à petit en fait je me suis vraiment renfermée sur moi, et aussi je développais une voix intérieure de plus en plus critique et de plus en plus présente. Ma vraie première période un peu dépressive, du coup, ça a été quand j'ai redéménagé en France au collège. Et là, j'ai commencé, du coup, à faire mes premières crises d'angoisse. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. C'était un peu des crises de larmes où j'arrivais pas à me calmer, où j'avais l'impression de mourir, d'être dans une souffrance physique très importante, mais je comprenais pas, et mes parents non plus. J'ai commencé du coup à me faire du mal avec la trichotillomanie, où on s'arrache les cheveux. Du coup, au début, c'était quelques poils de bras, et puis ensuite, ça a été mes sourcils. Et du coup, en quatrième, j'ai perdu la moitié de mes sourcils, presque. Et du coup, quand mes parents se sont dit « bon, là, il y a quelque chose qui va vraiment pas bien », ils ont voulu en fait m'emmener chez un médecin pour que je parle, ou en fait ils essayaient de trouver une solution, et en fait j'ai refusé complètement de parler, c'est-à-dire qu'ils m'ont emmené du coup chez un médecin généraliste, et j'ai pas parlé pendant l'une heure de la consultation, parce qu'à l'époque en fait je comprenais pas que j'allais mal. Pour moi, c'était comme ça que j'avais réussi à survivre pendant toutes ces années-là. C'était ma personnalité. C'était en fait, les symptômes étaient devenus partie de moi, et c'était tellement progressif que je comprenais pas en fait ce qu'il y avait de mal. Et du coup, mes parents, ils ont un peu laissé tomber, même si je commençais en fait dès qu'il y avait un moment de stress à retirer mes cheveux ou etc. Mais c'était voilà, ça faisait juste partie de mon quotidien en fait. La deuxième un peu deuxième période déclencheuse, c'était quand j'ai déménagé du coup à Glasgow pour mes études. Et en fait, là, comme j'ai enchaîné en fait des difficultés qui ont fait que ça a créé un terrain parfait pour la dépression. Du coup, un très mauvais rythme de vie où je dormais très très peu, où on sortait presque tous les soirs, où je suis tombée dans l'abus de l'alcool, du coup, le stress des études avec un changement du coup de rythme de vie drastique. Dans un autre pays, j'étais très loin de mes parents. Au lieu d'essayer de m'adapter à ce nouveau rythme de vie et d'être indulgent contre moi-même, je suis continuée à essayer d'avoir toujours les mêmes notes. Je faisais des stages du coup pendant l'été pour essayer d'avoir le meilleur dossier possible. J'avais des jobs d'été en plus, j'étais monitrice de voile l'été. Et j'ai passé mon permis, j'enchaînais, et à côté de ça, j'avais eu, pareil, beaucoup de déceptions amoureuses. Et en fait, ça a fait un enchaînement qui a fait que, quand je suis revenue pour ma deuxième année d'études à Glasgow, là, ça a été une pente glissante que j'ai même pas vu venir, en fait. Du coup, j'ai recommencé de faire des crises d'angoisse, mais qui sont devenues presque journalières. Je ne voulais plus sortir de ma chambre. Je m'isolais complètement. J'arrivais plus en fait à lire. J'ai perdu la capacité de me concentrer. Quand je devais écrire des dissertations, en fait, j'arrivais plus à lire mes bouquins et je ne comprenais pas, parce que il y a aussi ce problème de en fait pas connaître les symptômes et du coup aussi pas pouvoir les reconnaître, parce que aussi. Moi, je pensais jamais dans ma vie que je pouvais perdre la capacité de lire. En fait, les symptômes que moi j'ai eus, c'est des symptômes dont j'avais jamais entendu parler. La trichotillomanie, j'en avais jamais entendu parler. Du coup, le fait d'arracher les cheveux. Et en plus, mon père l'avait. Et c'était juste normal. En fait, ça n'a jamais été un problème non plus. Déjà, ça, je considérais pas trop ça comme un symptôme de mal-être. La perte de lire, je me suis dit juste mon cerveau il pète un câble, je sais pas ce qui se passe, mais j'avais pas dit ben là je fais une dépression ou quoi que ce soit quoi. Comme c'est aussi très progressif, on s'habitue et il y a aussi toujours la difficulté. En fait, d'accepter le fait qu'on va mal. On ne sait pas forcément mettre les mots dessus parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va mal non plus. Et en plus, moi, j'étais éloignée de tout. Et il y a un moment où je me suis dit, bon, en fait, je ne m'en sors plus. Du coup, je suis allée voir un médecin généraliste, du coup, en Écosse, là où je faisais mes études. Et il m'a dit, c'est sans doute une dépression, il faudra sans doute prendre des antidépresseurs, mais pour avoir une thérapie, il y a des psychologues qui sont disponibles en université, mais il y a une grande liste d'attente. Pour moi, ces diagnostics ne voulaient rien dire, parce que pour moi, le mot dépression, j'avais aucune information dessus, je ne savais pas ce que ça voulait dire non plus. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai contacté mes parents ont réalisé en fait l'état, surtout en voyant les trous que j'avais sur ma tête dû à la trichotillomanie, et ils m'ont rapatriée en France. Et c'est là où je suis un peu rentrée dans le labyrinthe du rétablissement. Mes parents, qui n'y se connaissaient vraiment rien du tout à la psychiatrie, à la santé mentale, aux maladies mentales, ils faisaient comme ils pouvaient. Du coup, on est d'abord passé par un médecin généraliste, forcément, qui m'a d'abord mis sur un premier traitement. Et puis, du coup, après, je suis allée voir une psychologue. Et puis après, je suis allée voir un psychiatre. Et en fait, pendant tout ce moment, ma dépression ne faisait qu'empirer. Ou en fait, mes crises d'angoisse, j'en faisais plusieurs par jour. Elles devenaient vraiment de moins en moins gérables. Ou en fait, j'arrivais plus à me calmer. La trichotillomanie devenait de pire en pire. J'ai commencé à me frapper, en fait, à me donner des coups, parce que j'arrivais pas à sortir de ma tête en fait mes voix intérieures étaient tellement, tellement difficiles et dures à attendre que un peu, j'étais en combat en fait, avec moi-même et avec ma tête. Quand je suis enfin arrivée à un psychiatre, il m'a dit «
Vous faites une dépression sévère, on va vous mettre sous un traitement très lourd. »
Et ça a été un peu, ouais, une descente un peu... ouais, une descente en enfer où quand on commence du coup les traitements, ça va pire avant d'aller mieux. En fait, j'avais l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle sur mon cerveau. D'une part, parce que du coup, il y avait un amas de pensées négatives que j'arrivais pas à contrôler, et aussi parce que j'étais tellement sous des médicaments que mes pensées étaient très floues et j'avais pas du tout la capacité en fait de réfléchir de manière claire. On a tous un peu cette pensée critique qui arrive quand on fait quelque chose dont on n'est pas fier, qui dit « Ah, mais t'es bête, t'aurais pas dû faire ça ». En fait, c'est ça fois mille. Ou en fait, dès que je faisais un truc, il y avait cette voix critique qui me disait toujours que je servais à rien, que je devais avoir honte de tout ce que j'avais fait ou de tout ce que j'étais. Et c'est là où, du coup, les idées noires sont arrivées de manière, de nouveau, hyper, hyper discrète, où ça commence par « Ah, si j'étais dans un accident de voiture là, bah du coup, je pourrais juste rester dans le lit et dormir pendant 3 semaines et ça me permettrait de me reposer. » Et très vite, ça devient en fait, ça serait mieux si tout s'arrêtait. Et c'est là, du coup, où j'ai fait ma première tentative de suicide et que j'ai commencé, du coup, à rentrer en hôpital psychiatrique. Après, pendant 3 ans, c'était ça. Hôpital psychiatrique, je sors de l'hôpital psychiatrique, je reprends un peu ma vie, période de rechute, tentative de suicide, on repart en hôpital psychiatrique. En fait, maintenant j'ai un recul qui me permet de voir qu'en fait, après chaque période en hôpital psychiatrique, j'avais une meilleure gestion de la maladie. C'est-à-dire que j'étais encore malade, mais je savais mieux la gérer. Mais j'étais tellement obsédée à cette époque-là d'aller mieux le plus rapidement possible, en fait, de retourner à la personne qui j'étais avant. Mais ce qui est complètement impossible, en fait. Mais à l'époque, il y a juste, j'ai envie d'être la personne que j'étais avant, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de tout complètement oublier toute cette partie-là et de faire en sorte que ça disparaît complètement de ma vie. Que du coup, à chaque fois que je sortais d'hôpital psychiatrique et j'allais un peu mieux, je reprenais une vie un peu effrénée. Je voulais vivre comme tout le monde, en fait, et pas du tout prendre en compte le fait que j'étais malade et que j'étais encore malade. Je voulais arrêter de voir mes psychiatres, arrêter de prendre mes médicaments, et ça entraînait à chaque fois, du coup, des rechutes dès qu'il y avait un peu des déclencheurs qui, du coup, me déstabilisaient. Un exemple de déclencheur, il y a un moment où mes parents ont dit « ben, on va peut-être redéménager ». C'était un déménagement au Japon. Moi, dans ma tête, c'est il faut que je recommence tout. J'avais pas la capacité de dire ben j'ai pas envie d'y aller. En fait, j'étais complètement dépendante d'eux parce que j'étais malade. Et ça, ça a été un véritable déclencheur où j'étais genre bah en fait je préfère en arrêter là que faire un autre déménagement. J'ai que eu une tentative de suicide où c'était calculé. Et c'était la dernière. Et les autres, en fait, c'était comme des accidents. Des moments où en fait, j'étais tellement en souffrance qu'il fallait que je trouve une manière d'arrêter cette souffrance-là. Et que du coup, ça a mal tourné et que ça a entraîné, du coup, ça fait une tentative de suicide. Mais j'avais pas du tout l'impression que c'était contrôlé, que c'était... que c'était un choix. Je préfère ne pas rentrer dans les détails sur et plus de souligner le fait que bah ça faisait partie de ma dépression, mais je m'en suis sortie et qu'on peut s'en sortir aussi. Et la dernière, du coup, j'ai été hospitalisée de force dans un hôpital très différent de ceux dans lesquels j'étais avant. Et là, un peu la différence, c'était que dans cet hôpital-là, il y avait d'autres cas qui étaient vraiment assez drastiques. Et ça m'a permis de prendre un recul un peu sur ma situation en disant, en fait, j'ai évolué. Je vais assez bien. Je suis malade, mais je... comparé du coup à ces personnes autour de moi, en fait, je suis pas si mal lotie. Et aussi, j'ai les conditions de vie qui me permettent du coup de pouvoir aller mieux si j'accepte enfin, un, que je suis malade et que je me donne la chance d'aller mieux. Je m'étais juste donné un an pour me rétablir. J'essayais plus d'arrêter le plus rapidement possible mon traitement. J'essayais de le stabiliser, de confronter un peu tous mes traumatismes, etc. C'était petit à petit, quoi. Il y a la première fois où j'ai pu prendre les transports en commun sans faire une crise d'angoisse. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup chanter. Je chantais toujours dans la douche. Et il y a un jour où j'ai recommencé à chanter dans la douche. Et c'est des petits trucs comme ça où tu dis « Ah ouais, en fait, ça va mieux. » Parce que ça paraît tellement... Maintenant, ça paraît quand même loin. J'oublie que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et quand je retrouve ces petits détails, quand je... Non, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'était mon quotidien. C'était... Et ouais. Du coup... Quand j'ai commencé à accepter le fait du coup d'avoir une dépression, j'ai commencé à en parler beaucoup plus parce que c'était ce que j'avais vécu. Ça avait été toute mon identité pendant 4 ans, mais ça créait des moments très gênants parce que t'es en soirée et hop, t'as quelqu'un qui te parle de ces 4 années de dépression sévère. mais ça veut dire que très vite, je suis devenue la personne qui a vécu une dépression. Et du coup, des personnes venaient me voir en disant « Ah, mon frère aussi, ou ma mère, ou mon père, ou ma tante, ou mon oncle. » Et ça m'a fait réaliser, un, à quel point c'était commun, surtout chez les jeunes, à quel point ils avaient tellement peu de personnes qui en parlaient dans leur entourage ou vers qui en parlaient, que c'était plus moi qui parlais de dépression en soirée random. C'était des personnes qui venaient me voir en soirée, où j'étais pas du tout prête à parler de ce genre de choses, et parler à 3 heures de la dépression de leurs proches. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a un truc quand même. Et c'est un peu dans tout ce contexte-là que j'ai cherché un endroit où je pouvais utiliser tout ce que cette expérience qui était quand même extrêmement difficile pour aider d'autres personnes, quoi. J'avais un peu cherché des associations qui existaient en France, mais en fait, je cherchais vraiment une association qui était dédiée aux jeunes et aux étudiants. Parce que quand je suis rentrée dans mes années d'études, et je pense que je n'étais pas la seule, je m'attendais à les meilleures années de ma vie, je me suis confrontée à quelque chose qui était très très différent. Je n'étais pas la seule et je me suis dit, c'est pas normal qu'il n'y avait pas de ressources dédiées. Et du coup, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose qui pouvait répondre à ce besoin que je ressentais. À ce moment-là, j'ai reçu un mail de Nightline qui cherchait des bénévoles anglophones pour tenir la nuit un service d'écoute par et pour des étudiants. Voilà. Du coup, quand j'ai découvert l'association Nightline, ça a été vraiment enfin une association qui se dédie aux étudiants. Et juste à créer un lieu où en fait on peut parler de comment on va et de comment on va vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on demande tout le temps chez Nightline, comment tu vas vraiment. Et c'est quelque chose que je cherchais depuis des années. Je suis d'abord devenue bénévole écoutante. Du coup, j'ai fait la formation pour prendre des appels 3 fois par mois. Ayant vécu ces moments, c'est plus facile pour moi de comprendre qu'un autre jeune ou un autre étudiant puisse traverser ces difficultés et surtout pas être dans le jugement et aussi peut-être trouver les bons mots. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, c'est par exemple dédramatiser ce que la personne ressent. Ça peut venir d'une bonne intention parce que en fait, tu peux essayer de faire en sorte que la personne dédramatise et de prendre du recul, mais la personne de l'autre côté va juste le prendre comme une dévalorisation de ce qu'elle ressent. Et c'est déjà tellement difficile de demander de l'aide que si on dit ben
ah mais c'est que ça, mais pourquoi tu te plains ?
Ça va renfermer la personne plus que l'aider à s'ouvrir. Et du coup voilà, j'ai été bénévole pendant 1 an. Ça fait complètement partie de mon rétablissement, cette expérience chez Nightline. Déjà parce que, entre bénévoles, c'est vraiment un espace où on peut parler de santé mentale de manière ouverte. Et c'est la première fois où j'avais l'impression de pouvoir voilà, parler de ma santé mentale, de ce qui m'était passé sans choquer, sans gêner, sans jugement. Ça faisait beaucoup de bien. Et c'est surtout, ça me donnait du sens à ma vie de pouvoir utiliser ce que j'avais vécu pour du bon. En fait, qu'il n'y a pas que du mauvais qui sort de cette expérience. Et ça, j'aurais jamais cru pouvoir le dire. Et en plus, travailler chez Nightline, en fait, ça m'a permis aussi de m'informer sur le monde de la santé mentale, de me connaître mieux. Et je suis très attachée, du coup, à cette association et c'est pour ça que j'y travaille encore en tant qu'employée aujourd'hui. On me demande toujours ce qui m'a permis d'aller mieux. Le moment où, hop, j'étais rétablie. Déjà, il n'y a pas eu un moment. Ça a été long, fastidieux. Ça a été un travail de longue haleine et surtout de patience où ben, j'ai continué ma thérapie, j'ai travaillé sur moi, j'ai continué à prendre mes traitements, à les prendre bien. À mettre en place du coup les conditions pour aller mieux dans ma vie, pour bien vivre du coup avec ma dépression. Mais je dirais que s'il y a une chose qui m'a aidée à aller mieux, c'est d'être patient. Et je recommanderais, en fait, je conseillerais ça non seulement à les personnes qui du coup traversent ou qui ont des maladies, des troubles psychiques, mais aussi aux proches, d'être patient du coup et d'être indulgent parce que c'est long. Et c'est fastidieux, c'est des hauts et des bas, c'est pas du tout linéaire. Et il faut s'accrocher aux petites victoires.
Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Adélie Pojman-Pontet. Réalisation Paul Berthiaud. Production Naomi Titi. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse apreslapluie@binge.audio ou sur le compte @apreslapluiepodcast sur Instagram.
Découvrez vite la première OVO sitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes ? Comment j'en suis arrivée là ? Est-ce que j'en veux des enfants ? Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait ? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.